je disais tantôt qu'on a un baptême qui nous attend. Deux personnes vont se faire baptiser tantôt dans quelques minutes. Et peut-être que vous êtes ici ce matin et que vous avez soit jamais vu participer à un baptême comme on aura. Et on peut, vous avez peut-être différentes questions sur c'est quoi le baptême. Premièrement, on peut se poser la question, qui devrait être baptisé? La parole de Dieu nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alors, les gens qui ont mis leur foi en Jésus-Christ ont accepté la parole de Dieu, ont cru à ce que Dieu a dit, et ces gens-là se font baptiser. Maintenant, pourquoi être baptisé? C'est Jésus qui nous le demandait, hein? Baptiser, il nous demandait de baptiser les disciples, de baptiser ceux qui allaient croire en sa parole, et c'est un commandement que Dieu nous a donné. Alors, si on le fait, c'est pas parce qu'on en a fait une tradition ou une habitude ou une quelconque forme. C'est parce que Dieu nous demande de baptiser les gens qui donnent leur vie à Dieu. Et le baptême, ça a une signification qui révèle ce qui s'est passé dans la vie de la personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire que la personne tantôt va descendre dans l'eau. Et au moment du baptême, on va la coucher dans l'eau et on va la ressortir de l'eau. Ce que les Écritures nous disent, ce que ça symbolise, c'est l'œuvre que Jésus a fait pour nous. C'est-à-dire qu'il est mort à cause de nos péchés, il a été enseveli, mais après il a été ressuscité. Et quand on appartient à Jésus-Christ, ben c'est comme si nos péchés, on est mort en Jésus-Christ, et nos péchés, notre vie ancienne, elle est passée, et quand on ressort de l'eau, on a cette nouvelle vie, cette vie éternelle que Dieu nous donne et cette nouveauté de vie où maintenant on s'est engagé avec Dieu de vivre dans une conscience qui lui est agréable. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se contente pas de quelques gouttes d'eau, on a un bain complet? Ben c'est justement pour symboliser cette image de mort et de résurrection en Jésus-Christ. Le baptême ne va pas ouvrir le ciel, le baptême ne donne pas le salut. Le baptême, ce qu'il fait, c'est qu'il illustre ce qui s'est passé dans ma vie. C'est une illustration. Et c'est pourquoi que l'eau est nécessaire pour qu'on puisse être enseveli et en ressortir. D'ailleurs, le mot « baptiser », littéralement dans les Écritures, veut dire « immerger ». Alors, quand on lit, par exemple, dans la Bible qu'une personne a été baptisée, souvent, on voit par après, et il sortit de l'eau par après. C'est le cas de Jésus, quand Jean-Baptiste l'a baptisé. Ben, et après ça, on voit qu'il est sorti de l'eau. Alors, qui devrait être baptisé? Ou plutôt, j'en ai parlé, mais quand est-ce que je devrais être baptisé? Si ce matin, tu es ici, tu dis, moi, je crois en Jésus-Christ. J'ai donné ma vie, je me suis repenti de mes péchés. Ben, le baptême est pour toi. Le baptême est pour toi. Dieu nous demande que ceux qui acceptent sa parole, ceux qui ont la vie éternelle puis qui peuvent dire qu'ils sont sauvés, le baptême est fait pour vous. Alors, quand attendre? Ça sert à rien d'attendre un moment propice, d'attendre qu'on va être peut-être un peu plus meilleur avant de se faire baptiser. C'est pas ce que les Écritures nous disent. Ça illustre ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est un point de départ pour nous. Je vais inviter les deux personnes qui vont se faire baptiser à venir raconter qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie. Et c'est sur cette base-là qu'on va les baptiser, sur la base de leur témoignage, de leur confession de foi. Je vais inviter Jean-François, s'il te plaît, à t'avancer pour nous raconter ton témoignage. Jean-François est avec nous, peut-être tu vas te dire dans ton témoignage, depuis quelques mois déjà. Avance-toi, Jean-François, viens prendre place, je vais te placer un micro. Depuis quelques mois maintenant, hein, Jean-François, je ne me trompe pas. À toi la parole.
Donc, merci David, très apprécié. Bonjour à tous. Alors voilà, mon nom est Jean-François Dutille, j'ai 28 ans et je suis né ici même à Québec dans une famille chrétienne très unie, constituée de Nicole et Mario Dutille, mes parents que j'honorerai toute ma vie. Monique et Camille Dutille, mes grands-parents qui ont été une figure religieuse très symbolique tout au long de ma jeunesse, et encore aujourd'hui. Et finalement, Valérie Dutille, ma sœur qui, comme moi, a découvert il y a quelques années la merveilleuse amour que Dieu a à nous donner et qui, pour elle aussi, a totalement transformé sa vie. Je suis ici aujourd'hui pour deux raisons bien précises. Premièrement, pour attester devant tous de ma foi inébranlable en Dieu. Notre Père céleste, et son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, mort sur la croix pour nos péchés. Et bien entendu, pour me faire baptiser, à la suite du fait que j'ai été sauvé le 10 février 2009 par la grâce de Dieu, notre Créateur et notre Maître divin pour toujours. Mais aussi, car cela représente un devoir pour nous, en tant que chrétiens, de faire ce symbole de la mort d'une ancienne vie et de la naissance d'une nouvelle via le baptême par immersion complète. Il est bien écrit dans Matthieu 28, 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et on peut aussi lire dans Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Avant d'accepter le Seigneur dans ma vie, oui, j'étais perdu et sans repère pour me guider à travers mon chemin personnel. J'avais un grand manque de joie de vivre et de paix spirituelle. Un vide que je compensais par des biens matériels, de l'alcool et autres substances et aliments qui nuisaient à ma santé. Et comme probablement la majorité des non-croyants, j'avais peur de la mort et de ce qu'il m'arriverait par la suite. Mais aussi, une des pires choses qu'un être humain puisse faire, persévérer dans le péché, tout en étant conscient que cela est mal d'agir ainsi. Mais heureusement, ma famille était là pour prier pour moi, pour demander à Dieu de m'aider à voir et à suivre le chemin de la repentance et du salut. Et ces prières ont porté fruit, car à la fin de ma vie païenne, j'ai senti un grand désir de découvrir ce que Dieu avait à me dire et de changer ma vie pour vraiment devenir un être vivant plutôt qu'un survivant, un enfant de Dieu plutôt qu'un oublié guidé par le mal et les tentations vilaines. Ce soir-là, lorsque j'ai décidé de tirer un trait final sur mon ancienne vie, j'étais assis sur mon lit et j'ai prié Dieu de pardonner mes péchés. Je lui ai dit d'une voix très sincère que je croyais vraiment qui il était et qu'il avait envoyé son Fils unique pour mourir afin de pardonner les péchés du monde, comme il est raconté dans Jean 3, 16. Mais j'étais aussi persuadé que le fait de croire n'était que le début, car à partir de ce moment, je devais changer mes habitudes de vie, tout en suivant ses commandements et conseils pour ma vie. En me confessant et en parlant à Dieu, j'ai senti un énorme poids qui reposait sur mes épaules être enlevé, et un sentiment de confort m'a tout de suite envahi. C'est comme si je me serais laissé tomber vers l'arrière sans aucune crainte, sachant qu'il était là et qu'il allait m'attraper au vol pour me porter avec lui. Dieu allait devenir à ce moment mon guide, mon maître et mon sauveur pour l'éternité. Ce fut sans aucun doute le plus beau moment de ma vie, ou plutôt, ma vie entière depuis ce jour est le plus beau moment de ma vie, car j'ai trouvé un du réconfort, de la joie et de la force sous l'aide de mon sauveur et de mon créateur. Ma vie depuis cet instant a été totalement transformée et continue de se transformer à chaque jour à travers la prière, la lecture des Saintes Écritures et aussi ma présence ici, dans l'Église, la maison de Dieu. Mais je dirais que malgré les épreuves et les tribulations, ma vie et la vision que j'en ai changent pour le mieux constamment grâce à la présence continuelle de Dieu dans ma vie de tous les jours et une requête que je mets très souvent dans mes prières et que Dieu aide tous les gens de cette planète à le découvrir. Et c'est pour cela que j'incite tout le monde à ouvrir la Bible, lire, prier et croire pour enfin connaître la volonté de leur Créateur pour leur vie. Car comme le dit si bien le docteur Charles Stanley, ce livre, mesdames et messieurs, est votre bien le plus précieux sur cette terre. Amen. Merci à tous.
Oui, merci Jean-François. Effectivement, un commentaire très pertinent d'un bien précieux que l'on a, les Écritures. Et merci pour ton témoignage. Je vais inviter maintenant Benoît à s'avancer. Benoît est avec nous aussi depuis quelques mois, plusieurs semaines. Et puis, nouveau marié et nouveau papa. Je ne vais pas tout brûler ton témoignage, là, mais quand même, tu te dis à ta place. Non, non. Merci, Benoît, d'être là.
Bon, ben bonjour à tous. Moi, je m'appelle Benoît Ortiz. Je suis ici devant vous pour dire que j'ai aucun mérite d'être ici devant vous. Tout revient à Jésus-Christ. Ma vie entière, je lui donne. C'est un amour incroyable. Moi, je suis une personne qui a grandi. dans un foyer. J'ai commencé dans un foyer catholique. Je n'étais même pas supposé venir au monde. Ma mère a été opérée pour ne plus avoir d'enfant. 11 ans après sa dernière, je suis venu au monde. Ils ont décidé de m'aimer puis de me garder. Très gentil d'ailleurs, je vous remercie. Après ça, ben c'est ça. J'ai grandi dans un foyer. J'ai tout de suite aimé. Même à l'Église catholique, j'aimais le Seigneur. Je partais de chez moi, j'allais au presbytère voir le prêtre, il posait des questions, faire baptiser des chapelets, excusez. Puis c'est ça. Fait que j'ai grandi, sauf que rendu à l'adolescence avec ma famille, ça allait pas très bien. Mon père a quitté pour des raisons personnelles. Ma grand-mère est venue rester à la maison, ça a été des moments très difficiles. Alors j'ai tassé ma famille, puis mes amis sont devenus ma nouvelle famille. J'ai passé 23 ans de consommation de drogue, très dur. J'ai fait des vols à main armée, j'avais tout pour me repentir parce que ma vie devant Dieu, je croyais en Dieu, puis j'y parlais même à travers tous ces moments-là. Je le savais, puis n'importe qui, à travers n'importe quel moment, m'aurait demandé « Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en Dieu? » J'aurais dit non, je crois pas, je le sais qu'il existe. C'est ce qui a été le plus difficile. Le temps que ça m'a pris pour venir au Seigneur, puis ça a été une grosse raison pour laquelle je suis pas venu avant, c'est que je me sentais tellement coupable de la vie que je menais. C'était terrible. Vivre l'humiliation jour après jour, d'aller à l'encontre de nos croyances, c'est terrible. Mais je le savais, puis j'ai toujours su qu'un jour, je reviendrais, puis que ma vie serait transformée par lui. Toute la grâce lui revient. C'est incroyable ce qui a changé dans ma vie. Le 24 décembre 2009, je me suis assis, puis j'ai dit, là, je suis fatigué. Là, je suis prêt à la changer ma vie. J'ai plus le goût de vivre ça. Je suis tanné. J'en avais le cœur tellement lourd. Puis effectivement, en tellement peu de temps, il m'a déchargé d'un poids immense. C'était incroyable. J'ai senti la présence de l'Esprit venir me rejoindre. C'était tellement merveilleux, c'est inexplicable. Quand je me suis fait dire, tu sais, l'Esprit là, rempli, là, tu vas avoir des sensations plus grandes que n'importe quelle drogue que tu vas pouvoir prendre à l'extérieur, c'est indescriptible. J'ai trouvé ça merveilleux. Je l'ai senti tellement puissamment dedans de moi. Aujourd'hui, il m'a amené dans une église qui voulait que je commence. Il m'a donné une femme extraordinaire. Je l'en remercie de tout mon cœur. C'est merveilleux. Il m'a donné des gens autour de moi qui sont tellement solides dans le Seigneur, qui sont pour moi des guides formidables. Mais écoute, si je commence à tous les nommer, Monsieur Fauvel, Gilbert, Lionel, Michel, Diane, c'est tout du monde incroyable dans le Seigneur. Merci à Dieu de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il me bénit jour après jour. Puis oui, comme mon confrère l'a dit, mon frère dans le Seigneur, prier, lire, c'est tellement une joie intense. Je pourrais jamais dire merci au Seigneur assez pour ce qu'il a fait pour moi. Je le mérite pas, en rien. Je suis un pécheur, je le reconnais devant tout le monde. Mais il y a une chose que je peux vous dire aujourd'hui devant vous, c'est que mon seul et unique désir, c'est d'être obéissant au Seigneur. Puis de vraiment continuer à vivre avec vous autres, tout le monde, pour se rendre jusqu'à son royaume. Nous autres, on est là, on le sait, on le sent. Il y a plein de monde à l'extérieur qui ne savent pas. C'est sûr que c'est notre tâche, vraiment, de leur montrer c'est quoi l'amour de Christ. Moi, c'est la plus grande chose. L'amour de Christ, il n'y a rien de plus grand pour moi sur cette terre. C'est un amour qui donne sans attendre, puis c'est ce que je me m'efforce de pratiquer à chaque jour, puis je lui demande la patience, l'amour qu'il y a en dedans de lui. C'est un don inestimable. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je vous souhaite tellement d'être béni dans le Seigneur, puis une longue route ensemble dans le Seigneur. Mm-hmm. Merci à tous.
Merci, Benoît. Il y a un passage des Écritures que j'aimerais attirer votre attention ce matin, qui est dans Romains 8. Romains 8, je vous invite à tourner avec moi. Regardez ce que Dieu nous dit. Romains 8, verset 31 et verset 32. Ça va ajouter à ce qu'on vient d'entendre, à ces témoignages, et d'entendre maintenant le témoignage que Dieu a pour chacun d'entre nous. La vérité que Dieu veut nous communiquer à chacun d'entre nous pour qu'on puisse vivre cette même vie que Dieu veut nous communiquer, qu'il veut nous donner. Et dans Romains 8, le verset 31, ça dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour regarder ce texte-là ce matin, de ce que Dieu est en train de nous dire. Et la vérité que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est que Dieu veut te combler. Dieu veut nous combler, chacun d'entre nous. La fête de Noël nous rappelle le plus beau et le plus grand cadeau que l'on ait reçu, Jésus-Christ. De Dieu qui nous a donné son Fils. Le cadeau qui fait toute la différence. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est quoi notre besoin de ce cadeau-là? Qu'est-ce qui est ce cadeau? C'est quoi ce cadeau-là? Et quel en est son effet dans nos vies aussi? À la fin des quelques minutes qu'on va prendre ensemble pour regarder ce texte-là, je vais vous donner l'occasion d'accueillir ce cadeau-là que Dieu nous offre à tout le monde. Quelle que soit la vie que tu as menée jusqu'à présent, quels que soient les mauvais coups que tu as faits, ou même quelles que soient les bonnes œuvres que tu fais depuis longtemps, ce cadeau-là t'est offert ce matin parce que Dieu veut te combler. Et je vais te donner l'occasion à la fin de cet exposé de pouvoir accueillir ce cadeau-là comme ce que Dieu nous le tend, comme ce que Dieu veut nous le donner. J'aimerais qu'on prie ensemble, que Dieu nous donne, nous touche, chacun d'entre nous, et que, au-delà de ma voix que vous entendez, que vous soyez attentifs à la voix que Dieu va avoir dans vos cœurs pour vous parler. Seigneur, on vient devant toi parce que c'est ta parole qu'on ouvre ce matin. C'est pas n'importe quel livre, c'est toi qu'on veut connaître. C'est toi qu'on veut rencontrer. C'est de toi qu'on veut entendre le message, Dieu, ce matin, et tu nous dis que tu veux nous combler, que tu veux nous donner ce cadeau qui va nous combler par-dessus tout cadeau. Et je te prie que tu puisses venir parler à mon cœur, qu'à chacun d'entre nous, que tu puisses venir nous parler avec ta parole, mais aussi avec ton esprit, pour que tu nous parles et tu nous montres exactement ce que l'on a besoin de comprendre et d'entendre. Pour qu'on puisse te comprendre, qu'on puisse te saisir, connaître ta parole, ta vérité. Et en nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Dieu veut te combler. Mais est-ce que tu as besoin d'être comblé? Très tôt, depuis notre tendre enfance, je ne sais pas si la vôtre était tendre, la mienne était relativement tendre. Très tôt, depuis notre tendre enfance, on a comme une recherche que l'on a à chaque jour de vouloir être comblé, de vouloir remplir une forme de vide que l'on a. Vous savez, le cadeau le plus populaire pour 2010, pour les enfants de 6 à 12 ans. 6 à 12 ans, là, c'est le groupe d'âge qu'on avait tantôt. Savez-vous, c'est quoi le cadeau le plus populaire pour 2010 pour Noël cette année? C'est un iPad! Rien de moins qu'un cadeau à 700 ou 800 $. C'est particulier, hein? Pour des enfants de 6 à 12 ans. Bon, on peut pas leur jeter de pierre, là. C'est pas ces enfants-là le problème. Mais c'est chacun d'entre nous qui, dans le fond, ça fait juste manifester, même à travers cette période des fêtes où on est caractérisé par une surconsommation, qu'on cherche à combler une forme de vide, constamment. On cherche à remplir quelque chose pour nous combler. Quand on a, par exemple, désiré vivement une voiture, une fois que qu'on l'a, qu'est-ce qu'on peut vouloir par après? Ben, autre chose. Quand l'excitation du début est passée, c'est autre chose. Je suis pas en train de condamner quoi que ce soit. Là. Je suis pas en train de dire « achetez-vous pas d'iPad, pas d'auto, quoi que ce soit ». Je parle du sentiment qu'il y a dans le fond de notre cœur à chacun d'entre nous de rechercher cette excitation constamment de vouloir posséder, de vouloir avoir. Puis Jean-François le disait tantôt, de combler une forme de vide par toutes sortes de biens, toutes sortes de consommations, toutes sortes de choses qui fait qu'on cherche à combler de quoi? Qui, dans le fond, il y a comme un vide dans nos cœurs. Quand on a fini un voyage d'une semaine dans le sud, qu'est-ce qu'on veut? Une deuxième. Hein? Mais alors, chaque chose comme ça nous amène à avoir ce désir-là de vouloir avoir plus. Je ne condamne pas aucun bien, mais le sentiment qu'il y a dans notre cœur de chacun d'entre nous peut révéler cet élément-là. Puis dans Ecclésiaste, un homme très intelligent, qui est Salomon, a dit que Dieu fait toutes choses. Ecclésiaste 3.11, je vais vous le citer. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. On cherche naturellement à être comblé. Ce que Dieu dit, c'est que toutes choses qu'il fait sont bonnes, et elle est bonne pour l'homme et en son temps, mais il y a, que tu crois ou non en Dieu, il y a dans ton cœur une pensée qui est là, et c'est celle de l'éternité, qui te ramène constamment à penser à plus loin que ce qu'il y a sur les biens de la terre. Il y a quelque chose de plus. Et cette pensée-là est en dedans de chacun de nous. Et c'est comme si Salomon, qui a écrit Ecclésiaste, si un homme qui était dans l'abondance que la terre a portée, c'est bien Salomon. La Bible nous dit qu'il a été l'homme le plus riche de son temps. Là. C'est un roi, et il n'y a pas eu de roi avant ni après comme lui. Dans toute sa gloire, Salomon était dans l'abondance. Des richesses incroyables. Il y a eu beaucoup de femmes aussi. Il y a eu beaucoup de tout ce que son cœur désirait. La Bible nous dit qu'il se le donnait. Il a tout essayé dans l'abondance pour voir si ça allait combler son vide. Est-ce que je vais être comblé? Puis savez-vous ce qu'il dit, Salomon? Vanité des vanités. Tout est vanité. Poursuite du vent. Avez-vous déjà essayé d'emmagasiner du vent? Courez après le vent. Vous allez peut-être le rattraper. Mais une fois que vous l'aurez attrapé, là, vous le mettez en bouteille. Ben, c'est pas facile, mais si tu as réussi, ça vaut quoi du vent? Qui veut une poignée de vent? Hein? Essayez de vendre ça sur eBay. Ça vaut rien. C'est rien. Cette abondance que l'on a, que l'on peut chercher à combler notre être, nous emmène constamment une insatisfaction. C'est comme si dans notre cœur, il y avait, je vais essayer de vous illustrer ça comme il faut. Je vais en profiter pour enlever ma cravate. C'est comme si dans notre cœur, il y avait une forme de trou noir, là. Bougez pas. Ouais, c'est dans le... Oh! Hey, j'ai réussi! Ne demandez pas comment j'ai réussi, là. Elle était déjà prédéchirée, OK? C'est pas ma force qui a fait tout cela. Il y a dans notre cœur ce trou noir. J'espère que je n'ai pas déchiré mon gilet, là. Il y a dans notre cœur ce trou noir qui est ce besoin insatiable d'être comblé. Cette pensée de l'éternité qui est dans mon cœur que je veux combler. Puis savez-vous pourquoi ce besoin, il est là? C'est parce que j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'être en communion avec Dieu. Ce trou-là qui est dans mon cœur, c'est la place que Dieu veut prendre. C'est la place que Dieu a créée initialement pour être là. Mais le péché a fait en sorte qu'on n'est plus en relation avec Dieu. Qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu. Que malheureusement, moi et Dieu, ce que la Bible nous dit, c'est qu'à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Je suis privé de la gloire de Dieu. Je suis privé de Dieu. Et ce trou béant dans ma vie, c'est la place que Dieu veut prendre. Est-ce que quelque chose de n'importe quoi sur la terre, que ce soit en abondance, peut remplir la place que Dieu peut prendre, que Dieu veut combler? Rien. Seulement Dieu. Et ça, c'est le besoin que l'on a de chacun d'entre nous. Un besoin que Dieu nous comble. Dieu veut te combler. et tu en as besoin. Et tu pourrais te donner tout ce que ton cœur désire. Ce sentiment-là va toujours revenir. Jésus il disait avec la Samaritaine, quand il lui a offert de l'eau, « Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. » Quand Jésus a multiplié le pain et qu'il l'a donné, il a expliqué que quand on mange le pain, on n'aura plus jamais faim. Quand que Dieu nous comble, c'est comblé, c'est rassasié, c'est une soif étanchée. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ça que Dieu veut combler dans ta vie. C'est un merveilleux cadeau que Dieu veut nous faire. Il veut nous combler. Peut-être qu'on est assis ici ce matin, et puis tu es un enfant de Dieu. Puis tu connais Dieu, puis tu es sauvé. Est-ce que Dieu te comble? Dieu, il comble. Dieu, il prend soin de tous les aspects de ma vie. Mais peut-être que des fois, j'ai ce sentiment ou cette impression que, comment ça se fait, je vis encore du malheur? Comment ça se fait que je vis encore des difficultés, des souffrances? Comment ça se fait que, on dirait que mon voisin, il a de l'air plus comblé que moi? Asaph, dans le psaume 73, c'est en quelque sorte un peu ce qu'il disait. Comment ça se fait que le méchant, il est riche, puis il a tout ce qu'il désire? Il est-tu comblé, lui? Il est-tu plus comblé que moi? Si t'es un enfant de Dieu ici ce matin, tu peux pas avoir plus que ce que Dieu te donne. Le problème, c'est pas que Dieu arrête de nous combler. C'est qu'on arrête, des fois, de chercher à être comblé par Dieu. Ou on cherche à combler par d'autres choses, plutôt que de laisser Dieu dans nos vies agir. Jésus, le bon berger, il est venu apporter quoi? La vie abondante. Pas la vie graine par graine, la vie abondante. Dieu il a fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec lui. Est-ce qu'on peut posséder plus que ce que Dieu possède? Si je suis co-héritier avec Jésus-Christ, je suis plus que comblé, hein? Je suis dans la surabondance. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans ma vie. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Combler ce besoin qui existe dans nos cœurs de chacun d'entre nous. Mais Dieu veut te combler par un cadeau bien précis. Dans Romains, tantôt, ce qu'on a lu, dans le verset 31, ça dit, qu'est-ce qu'on dira à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et là, il continue au verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu veut te combler. Et Dieu, qui a donné son propre fils, il n'a pas épargné son propre fils, il l'a envoyé sur la terre, s'incarner, pour finalement mourir pour nos péchés. Si Dieu t'a donné ça, est-ce qu'il peut te donner des choses de valeur inférieure? C'est ce que le texte nous dit. S'il n'a pas épargné son propre fils, il va nous donner tout ce qui suit aussi, tout ce qui en découle. Mais ce cadeau-là, c'est Jésus. Ce cadeau-là qui peut te combler entièrement et définitivement, c'est Jésus, uniquement. Il y a juste Dieu, juste Jésus. Quand la reine Élisabeth est venue visiter l'Amérique, il y a eu plusieurs journalistes qui ont écrit, et là, mon intention n'est pas du tout de dénigrer la reine ou quoi que ce soit, mais plusieurs journalistes ont relevé que quand elle venait, par exemple, quand elle se déplace dans un autre pays, comme par exemple en Amérique, ça peut coûter un peu plus de 20 millions de dollars pour sa visite dans un pays. Et elle se fait accompagner, par exemple, de 4000 livres de bagages, incluant deux tenues d'occasion pour chaque circonstance, en une tenue de deuil et une tenue habituelle. Par exemple, elle apporte son propre coiffeur, des valets de chambre et une foule d'autres serviteurs. C'est le protocole monarchique, puis c'est correct, on laisse ça de côté. Mais je voulais mettre en contraste le roi des rois qui est venu nous visiter. Quel protocole est-ce qu'il a eu, lui? Pas de place à l'hôtellerie pour lui, pour sa mère qui est sur le point d'accoucher. Hein, il reste de la place dans l'étable là-bas. Puis quand il est né, placer le roi des rois dans une mangeoire. Il y avait plus de témoins animaux que humains de cette naissance du roi des rois qui arrivait. Et c'est beaucoup plus glorieux que de descendre de l'avion, mais c'était Jésus qui venait nous visiter. Ça, c'est le cadeau que Dieu est venu nous faire. Cette annonce-là de ce cadeau que Dieu voulait nous faire était faite il y a plusieurs centaines d'années avant même sa naissance. Ésaïe nous dit, je vous annonce, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et Matthieu complète en disant ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu qui vient nous visiter. Et quand le bébé est né, les anges sont venus dire, je vous annonce aux bergers, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Et cette bonne nouvelle, on l'annonce encore aujourd'hui, qui est le sujet d'une grande joie parce que Dieu veut nous combler. Parce que Dieu veut nous combler de ce cadeau-là qu'il nous a fait, qui est Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait, ce don-là, c'est deux choses. Le don de sa vie. Premièrement, Dieu a donné son Fils et Dieu le Fils a donné sa vie. Paul il dit dans 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde. Pourquoi? Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Jésus qui est venu dans le monde, c'est une parole entièrement digne d'être reçue que s'il est venu, c'est pour nous sauver. C'est pour nous combler. Jean il dit la même chose dans 1 Jean. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, ce verset-là? Le don gratuit, c'est une redondance. Dieu insiste clairement pour dire, c'est un cadeau que je donne. C'est un cadeau, un don qui est gratuit. Imaginez à Noël, vous donnez à votre enfant ou à votre parent, je te fais un cadeau gratuit. Hein? Mais c'est évident. J'espère qu'ils sont gratuits tes cadeaux, sinon Noël serait plate un peu. Dieu, il donne sa vie. Puis il aurait pu dire, maintenant que j'ai donné ma vie puis que je veux sauver l'humanité, maintenant, je retourne au ciel et puis essayer de vous arranger. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il nous comble de sa vie qu'il nous a donnée, mais encore plus de sa présence. Il y avait un roi de Perse, que l'histoire nous dit, qui aimait beaucoup ses sujets et qui les aimait à un point qu'il voulait voir comment est-ce qu'ils vivaient. Dans la basse-cour, il se déguisait selon là où ils étaient les sujets et il allait les visiter sans se révéler à eux. Puis un jour, le roi est allé visiter un homme très pauvre qui était dans un sous-sol, c'était sombre et puis mangeait de pas beaucoup de nourriture et le roi a pris une soirée avec lui. Le lendemain, le roi est revenu se présenter à cet homme-là, lui disant, je suis ton roi. Mais le roi s'attendait en lui disant ça, que cet homme-là allait lui dire, « Hey, j'aimerais ça avoir tes biens. J'aimerais ça avoir toutes tes bénédictions. Là. Hey, on a passé du temps ensemble, tu pourrais me donner quelque chose. » Puis cet homme-là, ce qu'il a dit, c'est, « Je veux pas tes biens. J'ai eu le privilège de manger en présence du roi. D'être avec le roi. C'est ça que Dieu nous fait comme privilège. » Oui, Dieu nous les donne, ses biens. Oui, Dieu va continuer de nous donner ses bénédictions. Il pourrait même ne pas toujours les donner, les choses terrestres. Mais si tu te laisses combler par Jésus, par Dieu, il te comblera toujours de sa présence. Toujours. Et ça, c'est le privilège que l'on a une fois qu'on est comblé par Dieu. Il nous donne sa vie, mais il nous donne aussi sa présence. Avant de partir au ciel, Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et juste avant de partir, il a dit aussi, « Ça vous est avantageux que je m'en aille au ciel parce que je vais vous envoyer l'Esprit. » À partir du moment que on devient un enfant de Dieu, Dieu habite en nous. C'est ce que Dieu dit. Dieu vient faire sa place là où il avait créé l'espace pour y habiter. Il vient reprendre cette place-là qui lui était destinée. Dans Romains 8 qu'on a lu tantôt, le verset 31 dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si je suis avec Dieu, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Si mon père est le plus fort, il est plus fort que tous les autres pères. Hein, on disait ça quand on était enfant, mon père est plus fort que le tien. Dieu, il est avec moi, qu'est-ce que je peux craindre? » Avoir Dieu avec soi signifie qu'on n'est plus jamais seul parce que Dieu est avec nous. Avoir Dieu avec soi signifie que je peux faire face à chaque situation de ma vie avec courage et assurance parce que Dieu est là. Avoir Dieu avec soi signifie que j'ai plus besoin de m'inquiéter quand l'échec frappe à la porte. Parce que Dieu veut que je vive la victoire. Et si j'ai vécu un échec, Dieu me relève. Avoir Dieu avec soi signifie que j'ai une source de vie abondante. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour moi, il va me combler de tout le reste. Mais tu dois premièrement réaliser ton besoin. Ton besoin de Dieu. Et ce besoin-là est créé à cause du péché qui nous a séparés de Dieu. Ce cadeau-là que Dieu te donne, c'est son Fils, c'est sa vie, c'est sa présence. Et si tu crois ça, ça prend deux choses pour avoir un cadeau. Un donateur, puis le prendre. Il faut le prendre, ce cadeau-là. Il faut le prendre, ce cadeau-là. Tu pourrais dire, oui, Dieu me donne un beau cadeau, c'est fantastique. Puis tu pourrais repartir ce matin puis dire, Dieu, il est bon. Puis chanter les cantiques de Noël puis dire, c'est vrai, c'est bon. Mais il faut que tu le prennes pour toi. Parce que Dieu frappe à la porte de ton cœur. Puis il veut faire cette place-là, là où il y a ce trou dans ton cœur, pour venir faire sa place. Il veut y habiter. Je vais conclure avec une dernière petite histoire. Il y avait un homme, un vieil homme, qui avait beaucoup de biens, un homme riche, qui était veuf. Et il y avait son fils, qui était un jeune homme. Cet homme-là, qui avait beaucoup de biens, était particulièrement intéressé aux œuvres d'art qu'il collectionnait, comme des Van Gogh, des Picasso et d'autres toiles de grande valeur. Et un jour, pendant que la guerre commençait dans le pays, le fils a été enrôlé et malheureusement a dû partir. Quelque temps après, une mauvaise nouvelle est arrivée au père. Le fils était mort, avait été tué à la guerre. Ce qu'il a appris dans l'histoire, c'est que son fils, quand il est mort, il avait eu l'occasion de sauver un autre homme juste avant de mourir. Et cet homme-là, profondément reconnaissant envers l'homme qu'il avait sauvé, a su que cet homme-là avait un père qui appréciait l'étoile, a peint le visage du jeune homme. Et est venu l'apporter au père. Et en frappant à la porte, le père se demande qu'est-ce qui est là. Il rouvre la porte, voit ce soldat qui est devant lui, se présente en disant, « Je suis l'homme que votre fils a sauvé. Puis je vous ai apporté un cadeau. J'ai peint le visage de votre fils, qui pour moi est un homme maintenant important. » Imaginez la place que cette toile a pris sur les murs de cet homme-là. Pas de grande valeur, hein? Un amateur qui a peint cette toile-là, mais représentant le visage de son fils, peint par l'homme qu'il avait sauvé. L'homme est décédé quelque temps après, n'ayant pas d'héritier, il a mis ses biens aux enchères, et les gens qui sont venus pour acheter les œuvres étaient particulièrement intéressés par les grandes œuvres, les Van Gogh, les grandes toiles. L'encanteur, quand il a commencé, il dit premièrement, selon la volonté du défunt, on va vendre la toile du fils. Les gens se moquaient un peu. Ben voyons donc, toile d'amateur, ça n'a pas d'importance. Les gens n'avaient aucun attachement face au fils, ils ne le connaissaient pas. Puis l'encanteur commence à 100 piastres. Personne n'achète ça. Non, on va descendre à 50 piastres. Personne n'achète ça. Finalement, un voisin qui avait connu le père et le fils un peu a offert 10 piastres pour acheter la toile représentant le fils. L'encanteur donne la toile, ferme les enchères, finit pour l'encan. Mais voyons donc! Il y a plein de belles toiles encore, tu vas pas laisser ça là, fais-nous pas attendre plus longtemps! Et l'encanteur révèle que, selon la décision de cet homme-là, celui qui achetait la toile du fils avait tout le reste. Celui qui a le fils a tout inclus aussi. Celui qui a le fils a eu tout ce qui suivait avec aussi. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Peut-être que pour toi, Jésus a été méprisé pendant plusieurs temps. Pour toi, ça semble plus ou moins de grande valeur. Mais pour le Père, ce fils-là était de grande valeur. Pour Dieu qui t'a donné son fils, il n'y a pas de plus grande valeur. Et si tu te laisses combler par le fils ce matin, la parole de Dieu nous dit, tout le reste te sera donné aussi. Mais ce qui va te combler, c'est que Dieu va revenir prendre la place qui lui était destinée. Ce matin, tu as l'occasion de pouvoir accueillir ce cadeau-là. Ce matin, tu as l'occasion de pouvoir dire à Dieu, « Dieu, je crois que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour moi. Dieu, je crois que Jésus m'a donné sa vie pour me sauver. » Est-ce que tu crois ça? Je demande des questions juste pour réfléchir pour toi-même dans ta tête. Mais est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Est-ce que tu crois que tes péchés te séparent de Dieu? Est-ce que tu es pécheur? Parce que si tu es pécheur, et la Bible dit qu'on l'est tous, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de te repentir de tes péchés. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois ce qu'il a fait pour toi, tu peux croire aussi qu'il veut te sauver. Et de croire en Jésus, c'est de transformer sa vie en fonction de ce que tu crois. C'est la repentance. Et tu pourrais simplement dire cette prière ce matin, juste te dire deux passages en terminant. La Bible dit que Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Si tu es pécheur ce matin et tu le reconnais, la Bible dit que Dieu ne te tient pas pour innocent. La condamnation est sur chacun d'entre nous à cause de nos péchés. Et la Bible dit aussi, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Si tu veux ne plus avoir cette condamnation sur toi, si tu veux avoir la vie éternelle, le don gratuit que Jésus-Christ veut te donner, tu peux simplement lui demander. Simplement lui demander. Je vous invite à baisser vos têtes, fermer vos yeux. Et ce matin, si tu veux accueillir ce cadeau, la prière que je vais dire n'est pas magique. Saisis les mots que je peux dire. Approprie-les et dis-les à Dieu de ton cœur. Dieu, je viens d'entendre ce matin ta parole qui me dit qu'à cause de mes péchés, je suis séparé de toi. J'en suis bien conscient, Dieu, parce que, oui, j'y pense à l'éternité. Puis oui, je peux essayer de combler ma vie de toutes sortes de façons. Et Dieu, je viens d'entendre ce matin que tu veux me sauver de ça. Tu veux enlever ces péchés de ma vie pour me donner ta justice. Dieu, je crois que si tu m'as donné ton Fils, je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. C'est moi qui devais mourir à cause de mes péchés. Et Dieu, j'ai entendu aussi ce matin que ce cadeau que tu me donnes peut me combler pour l'éternité. Je crois que ce cadeau-là, c'est la vie, c'est ta vie. Et Dieu, je veux l'accueillir. Fais de moi ton enfant. Pardonne mes péchés. Sauve-moi, Dieu, je t'en supplie. Et je vais me repentir de mes péchés aussi pour maintenant t'obéir. Au nom de ton Fils Jésus que je te prie ces choses. Amen. Ce matin, si tu as cru que Dieu veut te combler, si tu lui as donné ta vie pour accueillir la sienne, je veux t'encourager à le dire à quelqu'un avec qui tu es venu, à le confesser, parce que c'est bien que de pouvoir en parler avec une autre personne, peut-être qu'il va pouvoir te poser des questions, voir ce que tu as compris. Mais parle-en. La Bible nous dit que si je confesse le Seigneur Jésus-Christ, si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je crois de tout mon cœur, la Bible dit, tu seras sauvé. Prends Dieu au mot. Confesse-le. Si tu crois ça dans ton cœur, confesse-le. Dis-le. Dis-le lui en premier et dis-le aussi à ton prochain, à quelqu'un avec qui tu es venu. La Bible dit, tu seras sauvé.
On va chanter, attaché à la croix pour moi.
Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, qui a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, il renonce un moment à son trône. Le plan rédempteur de Dieu, déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Méprisé, rejeté par les hommes, pour mes iniquités brisées, il me dit, vois combien je t'aime. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Salut accompli sur la terre, mon sauveur remonta au ciel, et bientôt il va reparaître, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
Je vous invite à vous asseoir. Est-ce qu'ils sont prêts?
Un petit peu, chacun d'entre vous. Je vais demander, vous savez, pour moi, c'est un privilège aujourd'hui de baptiser ces deux garçons-là. J'ai trouvé les témoignages intéressants, j'ai trouvé les témoignages merveilleux. C'est des jeunes hommes qui m'ont rappelé, voilà, 25 ans passés, ce qui s'est passé dans ma vie. Puis beaucoup d'entre vous aussi ont vécu ce qu'ils ont vécu. Je l'ai vécu, puis c'est un privilège. Je regarde ces deux jeunes hommes-là, là. Ils sont convertis, là, tout nouveau convertis, puis tout ce qu'ils veulent, c'est d'obéir à Dieu et d'aller dans les eaux du baptême. Ça, c'est merveilleux. Ils n'ont pas entendu. Ils ont dit, moi, maintenant, je suis un disciple. Et qu'est-ce que le Seigneur demande d'un disciple? C'est qu'il soit baptisé. Et c'est ce qu'ils veulent obéir ce matin, c'est ce qu'ils veulent faire, obéir au Seigneur et se faire baptiser pour montrer ce qui s'est passé dans leur cœur. Un en 2009, l'autre en 2010, février, janvier 2009-2010. Ils veulent démontrer ce qui s'est passé dans leur cœur. Ils veulent le démontrer par ce symbole-là que le Seigneur nous a laissé, les eaux du baptême. Donc, j'invite Jean-François, si tu veux descendre, Jean-François. Je ne l'aiderai pas, il est assez grand, il n'a pas besoin de moi. Bonjour Jean-François. Bien ici, Lagacé. Jean-François, dit toujours bonjour, Monsieur Lagacé. J'aime ça quand il me parle de vous. Monsieur Lagacé, il est gentil. Jean-François, j'ai écouté ton témoignage ce matin, j'ai eu le privilège de travailler un petit peu avec toi, de regarder les Écritures avec toi.
Tout à fait.
Puis, crois-tu, Jean-François, que Jésus-Christ est le chemin?
De tout mon cœur.
Crois-tu que c'est le seul chemin?
Le seul chemin, la vérité et la vie.
Oui, puis qu'est-ce qui s'ensuit pour ça? Qu'est-ce qui est dit? Que nul ne peut venir au Père
que par soi.
Que par lui. Un peu de névrosité. Il est comme moi, il est nerveux. Jean-François, oui, Jésus-Christ est réellement le chemin, il est le véritable. Crois-tu qu'il a pardonné tes péchés?
Tout à fait.
Crois-tu que tu es devenu un enfant de Dieu lorsque tu lui as demandé de pardonner tes péchés? Crois-tu que son sang a purifié ton cœur maintenant, que Christ est venu habiter son cœur, et ce trou noir qui était là, il est rempli par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même?
Oui, j'en confesse devant tous.
Eh bien, sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Benoît, c'est un autre frère que j'apprécie beaucoup. J'ai passé une soirée avec. Je ne connais pas beaucoup, mais je le sais qu'il a passé des moments difficiles. Puis, mais je le sais aussi qu'il croyait fermement que la parole de Dieu, même s'il n'était pas encore sauvé, même s'il n'était pas devenu un enfant de Dieu, il croyait de la première à la dernière page que ça, c'était le message de Dieu. Puis quand il regardait un jour, quand il regarderait ça, ben, il ne pouvait pas ce que Dieu disait que c'était blanc, il l'a laissé blanc. Puisque Dieu a dit que c'était noir, il l'a laissé noir. Il n'y avait pas d'entre-deux. Hein? Mm-hmm. Tu ne crois pas qu'il y a d'entre-deux?
Non.
Où c'est là? Benoît, crois-tu que Dieu a racheté tes péchés à la croix du calvaire?
Oui.
Il s'est incarné cette période-ci. On regarde la période de Noël qui est venue ici, qui a pris la place d'un petit enfant, en sachant très bien qu'elle allait aller à la croix du calvaire pour mourir tes péchés.
Sans aucun doute.
Pour te donner la vie éternelle.
Oui.
Pour te faire te sortir des royaumes de ténèbres. T'emmener dans ce merveilleux monde qui est le royaume de la lumière.
Oui, monsieur.
Et qu'un jour, qu'on va passer l'éternité avec.
Oui, monsieur.
Ben, sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Tu peux boire de cette eau, sur ce de la pureté, sur ce de la vérité. Tu peux boire de cette eau sur cette éternité. Tu peux boire de cette eau sur cette éternité.
beaucoup d'entre vous ont accepté Christ et ont dit oui à ce don si précieux de la vie éternelle qu'il veut nous accorder. Peut-être que ça fait des mois et même des années qu'ils ont dit oui à Christ, mais qui n'ont pas encore passé dans les eaux du baptême pour exprimer leur obéissance face à ça. Vous savez, je trouve ça difficile de le dire, mais c'est le premier pas d'obéissance dans la vie d'un chrétien. Tu es un disciple de Dieu, tu es un disciple de Christ, maintenant, va dans les eaux du baptême. Confesse mon nom dans les eaux du baptême. Si vous avez des difficultés, si ça fait longtemps que vous êtes au Seigneur, vous avez des difficultés avec ça, je vous conseille, conseille fortement d'aller voir soit quelqu'un, un ami, un frère, une sœur dans le Seigneur pour lui dire, écoute, j'ai attendu longtemps, puis plus que j'attends, plus que c'est dur maintenant, il me semble que je ne suis pas capable d'y aller. Bien, allez voir quelqu'un, votre pasteur, un ami, peu importe, allez voir un frère, une sœur dans le Seigneur, puis dites-lui, puis il va vous diriger face à la direction qu'il faut prendre. N'ayez pas honte de Christ, n'ayez pas honte de lui. Peu importe le pourquoi que vous avez attendu, Christ est là et il vous attend dans ce premier pas d'obéissance. Gloire à Dieu.
Amen. Je vous invite à vous lever avec nous. On va chanter « La plus belle nuit du monde ». On se voit ce soir à 18h30. Ah, c'est vrai, Priscilla. Priscilla a besoin d'aide pour ses boîtes de livres pour descendre la bibliothèque. Fait que si on a besoin de peut-être quelques hommes avec Priscilla dans le local-là pour descendre les livres en bas. Merci.